Tristan Hertig.
Le plan de victoire du président ukrainien Volodymyr Zelensky sera aujourd'hui sur la table des ministres de la Défense de l'OTAN, réunis à Bruxelles au moment où l'Alliance est plongée dans l'expectative à moins de 3 semaines de l'élection présidentielle américaine. Plus de 2 ans et demi après le début de l'invasion russe, l'Ukraine recule sur le champ de bataille, notamment sur le front oriental du Donbass, où chaque jour ou presque, Moscou annonce la prise d'un village. Volodymyr Zelensky est lui attendu aujourd'hui à Bruxelles, pas au siège de l'Alliance, mais à quelques kilomètres de là, dans le centre-ville, où il est invité à un sommet avec les dirigeants des 27 États membres de l'Union européenne. Et le président américain Joe Biden s'entretiendra demain à Berlin avec son homologue français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz et le premier ministre britannique Keir Starmer à l'occasion d'une visite centrée sur l'Ukraine, a annoncé hier la Maison-Blanche. Lors de ce voyage transatlantique d'une journée en pleine campagne électorale aux États-Unis, Joe Biden se réunira également avec Olaf Scholz de façon séparée, selon le programme de cette visite présidentielle transmis par la Maison-Blanche. L'agence de presse syrienne Sana'a a fait état cette nuit d'une attaque aérienne israélienne ayant provoqué des incendies dans la ville côtière de Latakié. L'Observatoire syrien des droits de l'homme évoque de son côté une frappe sur un entrepôt d'armes. Le nouveau premier ministre nippon Shigeru Ishiba a envoyé aujourd'hui une offrande rituelle au sanctuaire controversé de Yasukuni, considéré par beaucoup comme un symbole du passé militariste du Japon, s'abstenant toutefois de se rendre sur place. Ce sanctuaire Shinto, situé à Tokyo, rend hommage aux quelques 2,5 millions de soldats morts lors des conflits menés par le Japon depuis la fin du 19e siècle jusqu'en 1945. Le musicien britannique Liam Payne, ancien membre du boys band One Direction, est décédé hier à l'âge de 31 ans. L'artiste a chuté du 3e étage d'un hôtel de Buenos Aires, a annoncé la police, causant un profond émoi à des millions de fans à travers le monde. En basketball, battu 90-75 à Cholet une semaine plus tôt, Olympique accueillit son premier succès dans la Coupe d'Europe 2024-2025. À Saint-Léonard, Fribourg a dominé les Roumains de Constanța de 27 points, 103 à 76, lors de la 2e journée. Et la météo, aujourd'hui un temps généralement assez ensoleillé et sec, même si quelques passages nuageux, parfois importants, sont attendus dans l'ouest du pays, notamment le long du Jura et sur les régions de plaine avoisinantes. Des nuages qui pourraient s'accompagner de brèves précipitations. Le mercure en plaine de 14 degrés à 18 au plus haut. Demain, un ciel changeant qui alternera entre précipitations et éclaircies, notamment en Valais. Une limite plus neige qui s'abaissera de 2800 à 2600 mètres. Les températures sur le plateau de 12 au minimum à 17 au plus haut. Enfin samedi, une lente amélioration probable avec le passage à un temps sec et en partie ensoleillé à partir de l'ouest. Il fera au maximum 16 degrés.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info. La première pour accompagner votre nuit.
Un spectacle humoristique sur la séparation, un hommage à Raymond Devos, une conférence autour d'une création du Shakespeare, une machine à images que le public expérimente en étant couché sur scène. Oh. Frédéric Recrozio et la paternité, mais aussi du cirque et de la danse. C'est ce qu'il vous attend jusqu'à la fin de l'année au Théâtre du Passage. C'est la toute dernière programmation de Robert Bouvier qui quitte la direction de l'institution de Châteloise après 24 ans passés à sa tête et il nous en parle depuis lundi. Bonjour Robert Bouvier.
Bonjour tout le monde.
Avec nous également 3 décodeurs et 1 décodeuse, Sandrine Viglino, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Frédéric Gérard.
Bonjour Marie.
Qu'est-ce qui vous fait rire?
Ouais,
c'est votre
tout.
Nom. Bonjour.
Je sens qu'on va rire aujourd'hui.
Ah oui, bah, ouais, comme tous les jours de cette semaine. Daniel Rosis, bonjour.
Bonjour Marie.
Vous allez bien?
Ça va bien, merci.
Et bonjour Thierry Romanens.
Bonjour tout le monde.
Thierry Romanon, son nom, on l'a un tout petit peu évoqué, et là je reparle de cet hommage à Raymond Devos. C'est en fait une création de Bruno Coppens qui s'intitule Raymond de Rond en large. C'est à voir lors d'une supplémentaire en mai 2025, parce que vous avez un succès fou, Thierry Romanon, quand même.
Bon, il sera déjà vu donc le 29 octobre.
Mais pour ceux qui n'ont pas pu attraper des places. Oui, voilà. Et ça n'est pas la première fois que vous montez sur la scène du passage. Vous êtes un habitué.
Alors j'y suis venu régulièrement. Ouais, ouais.
Voilà. Ouais. Robert Bouvier, vous proposez également à votre public de vous suivre dans les coulisses du théâtre. Ça, ce sera le 20 novembre. Et vous serez accompagné de votre successeur, Robert Sandeau.
Oui,
ça se passe à midi. Je vous l'apprends peut-être.
Oui, ça s'appelle passage de midi.
Non, mais je sais pourquoi il était ému, parce que vous m'avez dit, vous êtes déjà venu plusieurs fois jouer ici. Et moi, je me disais, oui, mais on a déjà parlé, mais qu'est-ce que je voulais dire? Que j'ai joué avec Robert dans une création dans laquelle il m'a engagé et que j'ai joué le rôle de sa maman. Donc, je fus. Voilà. La mère juive de Robert de Bobby Check dans Funérailles d'hiver de Locke Lévin. Donc j'étais la maman de Robert. Il m'enterrait. Je mourrais assez vite. Hein, je mourrais très vite. Et après j'interprétais la mort. Et donc voilà, on a joué, même partagé le plateau.
Absolument.
Dans une co-création belge et suisse. Voilà. Non, mais un truc qui avait tourné une quarantaine, cinquantaine de fois, c'est pas rien, quoi.
Ben, dis donc.
Et je pense que le mieux, ça reste le wow de Daniel Rosis. Ouais. Voilà. Donc, on retourne au 20 novembre. Merci, Thierry Romanon, pour ces précisions. Bon, on adore savoir que vous êtes une mère, quelque part.
Ouais, moi, j'ai essayé d'imaginer.
Oui.
Une image mentale.
Le 20 novembre, donc, vous faites visiter, ça c'est sur la pause de midi, vous faites visiter les coulisses du théâtre et vous êtes donc avec votre successeur, Robert Sandeau. Mais ça fait pas bizarre d'accueillir le nouveau. Vous vous entendez bien?
Oui, tout va très bien. Les deux Robert, ça y est, on nous a trouvé déjà un surnom. Et puis, c'est quelqu'un en qui j'ai tout à fait confiance. Et puis, c'est organisé par ce qu'on appelle l'atelier des musées à Neuchâtel. Ce sont des visites des institutions, de leurs coulisses. Et alors, dans un théâtre, il y a toujours beaucoup de choses à dire, beaucoup d'anecdotes. Et on le fait chaque année. Mais pour la première fois, je le ferai accompagné.
Vous allez lui montrer, en fait, les coulisses.
Il les connaît bien. Venu souvent ici.
C'est un passage de bonnet, dans le fond.
Ouais. Le gros bonnet. Les deux Robert et leur gros bonnet.
Oh là là. Non, mais allez-y, poussez encore. Vous voulez en sortir une autre?
Non, je ne vais pas les sortir, moi, mais par contre... C'est vous qui l'avez dit, ce coup-ci. Hein.
Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit.
Vous êtes scandaleuse, Marie.
Oh, mais c'est pas possible.
Non, c'est dingue.
Je m'excuse, je suis désolée. Ouais. Pardon ?
Oui, voilà.
Bon, écoutez, j'ai plus rien à dire. C'était très intéressant. Oui, j'ai une chose à demander encore, Robert Bouvier. Est-ce qu'il y a des secrets que vous allez devoir passer comme ça à votre successeur, à Robert Sandeau, des choses que personne ne sait qui se passent dans les coulisses, justement, du théâtre du passage ?
Je sais pas, moi j'ai l'impression, je doute qu'il va nous dire quelque chose d'important.
Quoi ? Des politiciens à qui il faut donner des pots de vin, des choses qu'on ne peut pas savoir et que vous allez quand même nous dire à l'antenne.
Non, je pense qu'effectivement, c'est chaque jour, il y a un nouveau secret, un nouveau sésame, un nouveau mot magique à trouver, mais... le secret que personne ne connaît, c'est effectivement comment faire en sorte pour que le public vienne dans une salle de théâtre. Et ça, si on avait la recette, mais on fait des tentatives tout au fil de la saison.
Des fois ça marche, des fois pas.
Quand vous êtes entré dans ce théâtre du passage il y a 24 ans, vous l'avez inauguré. Est-ce que vous vous attendiez à toutes les casquettes que vous avez portées finalement durant ce mandat? Quand je pense surtout à toutes ces relations justement avec les politiciens, avec la commune, avec Neuchâtel, avec les habitants.
Mais c'est ça qui m'a amusé, ça nous rend très humbles, parce que quand on joue, on a envie d'avoir un bon rôle et d'être dans un bon théâtre, et tout à coup, on comprend effectivement ce que c'est que de trouver l'argent, de faire venir des adolescents dans une salle, qu'est-ce que c'est de sensibiliser un sponsor, et je crois que j'avais une spontanéité, effectivement, quelque chose d'assez prime sautier, d'assez direct avec les gens, qui faisait que chaque fois, je me réjouissais de rencontrer un garagiste qui allait nous offrir une voiture, ou
Moi aussi, je me réjouirais, dis donc.
voilà, il m'arrivait des anecdotes incroyables avec une mécène anglaise qui m'a présenté à la princesse Anne. Enfin, chaque jour.
Sympa.
Oui, c'était quelque chose. Et c'est un des personnages de mon solo parce qu'effectivement, c'est pas tous les jours qu'on croise quelqu'un qui vous aide à faire venir le Kirov ou le Stuttgart Ballet ou des cirques de Chine avec 100 interprètes et que vous ramenez des chèques de plus d'un milliard. Donc, j'ai eu des contes de fées ici, des choses complètement insoupçonnées qui me sont arrivées. Oh. Et puis, ce lien avec effectivement des publics que je ne connaissais pas.
J'ai retenu des chèques.
Non, un milliard.
Un million.
Un million. Ah bon. Parce qu'un milliard, si vous mettez des billets de 100 francs, ça monte jusqu'à la lune. Hein, là.
Ouais. Et puis sur le chèque, il faut, je ne sais pas s'il y a la place pour les zéros.
Non, c'est un million.
Un million, mais c'est déjà beaucoup. Oui, voilà.
Déjà bien un million. Hein. Ouais.
Par contre, au niveau des points. On est qu'à 14, hein.
Qu'à 14. Voilà. C'était pour faire le gag.
Oui.
Alors on avance.
14 millions.
Une question qui nous emmène dans l'espace, Robert Bouvier. Quelle est l'odeur d'une comète? Voilà, on parle de tout dans les décodeurs. Quelle est l'odeur d'une comète? Voici la réponse de Thierry Romanon.
Oui, les comètes sont des astres, hein, dits périodiques. Ça veut dire qu'on les voit pas tout le temps, il y a un cycle, voilà. Et c'est des astres qui sont en orbite autour du Soleil. Et quand la comète passe près du Soleil, le noyau qui est en glace et en poussière fond un peu. Et c'est pourquoi il y a cette queue luminescente qui peut s'étendre sur des dizaines de millions de kilomètres. C'est un truc qu'on n'arrive pas à s'imaginer, nous, ces trucs dans l'espace, là. Non, mais ces dimensions, oui. C'est pas possible. Le noyau, il est énorme, déjà beaucoup de kilomètres, et la traînée dégagé par le réchauffement par le Soleil, des millions de kilomètres. Monstrueux. Donc, non, on a déjà de la peine à imaginer la taille, donc maintenant, imaginez l'odeur.
Et puis pour vous, ça va être compliqué. Hein.
Et en plus, pour moi, c'est râpé. Ouais. C'est carrément râpé. Je vous remercie de votre compassion.
De rien.
Ouais. L'odeur d'une comète. Donc, non, mais déjà, comment tu veux... Je ne sais pas qui peut foutre le nez là-dedans. Enfin, bon. Donc, alors vu la température, je me suis renseigné. Enfin, j'ai relu l'encyclopédie Universalis sous comète hier soir. Alors, vu la température, il y a des réactions chimiques de décomposés en présence, des trucs, je ne savais même pas, du phénol, des terpènes, des aldéhydes, des hydrocarbures, ce qui fait que la comète, en gros, fouette comme du bois brûlé. C'est assez étonnant. Hein. Donc, ça sent comme si vous avez cramé le chalet, quoi. C'est ça, un peu, l'odeur dans le cosmos. Voilà. C'est ça.
Merci, Thierry Romanon.
Vous en priez,
bien sûr. Frédéric Gérard.
Oui, la comète a une queue, mais elle sent des pieds. Ça, c'est un bon début.
Oh putain, là, mais toi, tu vas direct dans la fosse, quoi.
Ça, c'est un bon début, ça.
Vous remarquerez que j'ai rien ajouté. Hein.
Non.
Plus précisément, elle sent le pied, mais pas n'importe quel pied. Un pied nu qui marine pendant des heures dans une basket en cuir quand il fait très chaud l'été.
Ah, c'est fort.
L'odeur de la comète est donc un mélange subtil de transpiration âcre et de mycose quand on la gratte. Voilà. Ouais, je suis désolé, hein, c'est ce que j'ai lu. Quand on sent une comète, ce qui arrive somme toute assez rarement, rassurons-nous, on a envie de prendre ses jambes à son cou, mais en laissant les pieds. Voilà.
Merci
de votre admiration.
Sandrine Viglino.
Alors moi, dans ma vie, il y a des questions que je me suis jamais posées, comme par exemple, pourquoi les pizzas qui sont rondes vont dans des boîtes carrées, sont coupées en triangles? Est-ce qu'il y a des gens qui mettent une baignoire dans leur cuisine? Pourquoi les décodeurs enregistrent tous les jours à midi et n'ont jamais pensé à regrouper l'enregistrement un soir de semaine?
C'est bien,
et
bref.
Cette question existentielle, quelle est l'odeur d'une comète? Donc, heureusement, quelqu'un s'est posé cette question et je lui en suis reconnaissante. Alors, pour découvrir le parfum d'une comète, comme l'a dit Thierry, d'abord, il faut savoir qu'elle est composée de glace, de poussière de roche, de composés organismes, mais surtout...
J'ai pas dit que des conneries.
Mais attends, t'as pas rajouté de l'essentiel. Elle est composée de poussière d'étoiles, d'espoir de gens qui font des vœux en la voyant... et qu'elle est chevauchée par une licorne qui rejoint la Terre. Les comètes sentent donc la magie. Alors, s'il y a des curieux qui veulent savoir comment ça sent la magie, eh ben, c'est simple, renifler une comète, c'est la même odeur.
Mmh. Et on termine avec vous. Et j'ai de plus en plus peur de vous donner la parole. Daniel Rosis.
C'est l'université de Berne qui a développé une espèce de NES, c'est-à-dire un truc qui est capable d'analyser les gaz à distance. Alors, il y a trois gaz principaux. Il y a les sulfures, l'ammoniac et le formaldéhyde. Donc, comme ça ne veut pas dire grand-chose, j'essaye de traduire. Donc, le sulfure, ça sent l'œuf pourri. Mmh. L'ammoniac, c'est entre le camembert bien fait et le crottin de cheval qui aurait bouffé des prunons. Vous savez, le crottin, alors, un peu déformé, comme ça, phase numéro 4. Puis le formaldéhyde, pour pas dire que des saloperies, c'est la peinture fraîche. Mmh. Donc, en gros, quand vous foutez le nez sur une comète, vous avez l'impression qu'il y a Pégase qui en a lâché une. Et d'ailleurs, Bruce Willis lui a dit « Hé, Pégase, tu portes bien ton nom, Pégase !» Et ça, c'est l'odeur de la comète.
Et après, il est
on
mort,
malheureusement.
On se dit
toujours, que fait Bruce Willis Il a eu le temps de lui dire ça avant de claquer sur la comète. Quoi ?
J'arrive pas à vous imaginer en train de regarder Armageddon.
J'ai vu, il y a eu deux films à peu près en même temps sur la même histoire. Là.
Il a le costume. Ouais.
Moi, je regarde pas Armageddon, mais je me fais raconter. Alors, tous les gens que je rencontre, je dis, t'as vu Armageddon, raconte. Puis après, j'ai des images superbes. J'ai pas l'odeur, par contre.
Je savais. Vous pouvez l'applaudir, oui. Quelle est l'odeur d'une comète ? On répond à toutes les questions dans les décodeurs. Voilà, c'est mieux que c'est pas sorcier, cette émission, finalement. Thierry Omanens, vous nous dites qu'une comète sent le bois brûlé.
Oui.
Oui.
Non, je découvre encore ce qui tient de la tête. C'est assez joli, ouais.
Frédéric Gérard, pour vous, une comète sent les pieds.
Ouais, mais enfin une odeur un peu spéciale.
Voilà. Sandrine Viglineau, pour vous, la comète sent la magie. Ouais. J'adore. Et Daniel Rosis, vous nous dites qu'elles sont l'œuf pourri, le crottin de cheval.
Et la peinture fraîche.
Et la peinture fraîche. Robert Bouvier, pour un 15e point, que sent une comète ?
J'essaie de croire à la définition de Daniel.
Bravo !
15e.
Et le public a bien voté. Presque tout le monde a voté pour Daniel Rosis. Effectivement, une comète sent un mélange entre œufs pourris et fumier de cheval. Un des instruments de la sonde Rosetta permet d'identifier les différents gaz entourant la comète. Ce nez conçu en Suisse a permis d'identifier une odeur de monoxyde et de dioxyde de carbone qui sont les plus présents. D'autres gaz nous feraient froncer le nez. Le parfum de la comète est particulièrement fort avec l'odeur de l'œuf pourri, du sulfure d'hydrogène, celle de fumier de cheval, de l'ammoniac et le piquant formal. Déide, analyse Catherine Altweg, c'est la chercheuse de l'université de Berne.
L'autre jour, ma femme m'a dit, t'es sûr que c'est pas une comète qui a passé bien.
Mais c'est une bonne excuse,
Peut-être. Oui. Fais un vœu.
Oui, exactement. Mais si vous êtes la femme de Daniel Rosis et que vous avez besoin d'aide, appelez-nous, on est là.
Donc j'en ai plusieurs, il y en a une pour les jours pairs, l'autre pour les années bissextiles.
Si vous êtes les femmes de Daniel Rosis et que vous avez besoin d'aide, appelez-nous. 15e point pour notre invité, Robert Bouvier. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will rock you, we will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place, somebody better put your bag into your place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Everybody, we will rock you. We will rock you. All right. We'll be right back. impose un peu le monde de la culture à celui du sport. Or, on peut aimer la littérature, le théâtre et être passionné de foot, comme par exemple Friedrich Dürrenmatt, qui se servait de son télescope pour regarder les matchs de foot du Neuchâtel Xamax depuis sa terrasse. C'est vrai. Robert Bouvier, est-ce que vous aimez le foot ?
Dans mon petit spectacle, je dis que j'ai été ni attaquant ni défenseur, mais roi de l'autogoul. Donc, le foot ne m'aime pas, en tout cas.
D'accord. Eh ben, malheureusement, voici une question sur le football. Qu'a-t-on modifié au terrain de football en 1902 ? C'est Frédéric Gérard qui répond à cette question, le premier.
Oui, je suis un spécialiste du football, comme tout le monde le sait. En 1902, on a ajouté les poteaux. Enfin, même des poteaux aux quatre coins du terrain. Les fameux poteaux de corner, ouais. Une autre question de Maurice de Fribourg. Monsieur Gérard, pourriez-vous me dire pourquoi il y a 11 joueurs dans une équipe de foot ?
Ah ouais. Ouais.
Eh bien, mon cher Maurice, à cause du gardien, oui. 10 joueurs de champ plus le gardien, ça fait 11. Sacré Maurice, il n'avait pas pensé au gardien.
Ouais. Ouais. Je comprends pas ce qui est en train de se passer.
Bah nous oui.
Non mais pourquoi il y a 11 joueurs sur un terrain ? Voilà. Oui. C'est à cause du gardien.
Ils sont combien sur il y a combien de joueurs ?
Il y a 10 joueurs de champ plus le gardien.
Alors 10 plus 1, ça fait combien ?
Ça fait 11.
Oui.
11, ben voilà.
Voilà, c'est tout.
Je n'avais
rien non plus Marie.
Il doit y avoir un truc. Non, oui, mais alors j'ai très bien compris.
Alors je vous simplement pourquoi est-ce qu'on met des cloches aux vaches ?
Est-ce qu'on est rentré dans un vortex ?
Non,
je ne comprends pas ce qui est en train
c'est
de se passer.
Parce qu'elles ne peuvent pas se les mettre toutes seules, voyez.
Mais merci, merci Frédéric Gérard.
Mais voilà. C'est un honneur.
On passe à Sandrine Viglino.
Moi, cet été, j'ai découvert la série The English Game, hein, qui explique les origines du football professionnel.
Oui, quelle série ?
Tu l'as vu, super. Hein. Oui, bah, dans cette série, j'ai appris qu'avant, on ne se posait pas la question de savoir si on allait jouer en 4-4-2 ou 4-5-1 comme aujourd'hui, parce qu'on jouait en meute. Pratique qui a été gardée par les hooligans. Ouais, avec l'arrivée des deux premiers joueurs pros de l'histoire du foot, donc Fergus Suter et James Love, la première révolution amenée par ces footballeurs a été de répartir les joueurs sur le terrain. Puis en 1902, vu qu'on avait inventé les attaquants, on a dû créer la surface de réparation où les attaquants pouvaient se rouler par terre en toute sécurité. Zone devant le but où les fautes deviennent plus graves et génèrent un pénalty. Alors, ouais, 2 ans plus tard, l'Italie a inventé la zone de recoiffage derrière le but, mais ça n'a pas tenu. Et cette réponse, Robert, elle est vraie. Parce que oui, les femmes s'y connaissent en foot.
Ouais, hein, Marie ? Oui. Daniel Rose.
Non, elle est pas super.
Donc, en 1902, il y a eu un truc important, c'est qu'on a inventé la règle du corner. Donc, ça a eu une monstre influence sur les terrains, parce qu'à partir de ce moment-là, il fallait des terrains rectangulaires. Parce qu'avant, on jouait sur des terrains ovales. Ouais. Si vous regardez Wembley, le stade qui a été détruit en 2003, il était ovale, ellipsoïde, et il y avait la piste d'athlétisme autour. Alors, ce qui était assez bonnard, parce que comme le terrain était ellipsoïde, on n'avait besoin que d'un juge de touche. On s'occupait que d'une ligne. Il y a une ligne quand
il courait autour.
Non, alors maintenant, le problème, c'est que depuis qu'il court 400 mètres dans le nouveau stade de Wembley rectangulaire, pour les virages, c'est très compliqué.
Merci, Daniel.
Je vous en prie. Je vous en prie.
De plus en plus.
Et finalement, Thierry Romanens.
Oui, qu'a-t-on modifié au terrain de football en 1902 ? La buvette. Parce qu'en 1902, on l'a accordé et surtout, voire imposé. C'est une nouveauté, c'est moins con qu'il n'y paraît. Voire imposé au club de foot la gestion de la buvette pour le public. Il s'agissait à l'époque d'une mesure de santé publique parce qu'il n'était pas rare d'avoir des malaises parmi les supporters pour déshydratation. Je vois que vous m'accordez un crédit qui est limité, mais sincère.
Oui.
Merci. Voilà.
Merci Thierry Romanens. Qu'a-t-on modifié au terrain de football en 1902 ? Frédéric Gérard, vous nous dites qu'on a ajouté les poteaux de corner.
Tout à fait.
Pour Sandrine Viglino, c'est la date de la création de la surface de réparation. Pour Daniel Rosis, l'invention de la règle du corner, donc des terrains rectangulaires. Et finalement, pour Thierry Romanens, c'est la date à laquelle on a imposé la tenue d'une buvette par club de foot, voilà, pour un 16e point. Robert Bouvier, qu'est-ce qui a été modifié sur les terrains de football en 1902 ?
Peut-être le poteau ?
Eh ben, dans le poteau, hein, dans le poteau.
Eh bien non, c'est en 1902 qu'a créé la surface de réparation. C'est Sandrine Viglino qui a eu la bonne réponse. Ah. Oui, la penalty area, une surface tracée à 16,5 mètres, oui, les 16 mètres, les fameux 16 mètres, à partir de la ligne de but pour une largeur de 40 mètres. Lorsqu'une faute est commise dans cette aire de jeu, l'arbitre siffle un penalty, une possibilité de réparer l'injustice qui est faite à l'attaquant. Voilà, c'est à ça qu'elle sert, cette surface de réparation. Et je trace le 16e point que je vous avais mis par amitié pour noter à nouveau 15.
Le rond du milieu, il sert à quoi?
Mais c'est ça qu'on se pose comme question.
Vous savez à quoi ça sert, le rond du milieu?
Le rond du milieu?
Ah non, moi je peux vous dire. C'est l'endroit où doivent se tenir tous les joueurs pendant les tirs au pénalty après le match. Ça sert uniquement à ça.
Ah non, mais pourtant ils ne se tiennent pas là.
Non, bah, la règle dit qu'ils doivent rester dans le rond central.
Ah, ouais,
ils
n'ont
pas le droit de sortir du rond central.
Qui mesure?
Non, je t'assure. Et je peux vous dire combien mesure le rond central.
15 points pour Robert Bouvier. Nous sommes le 17 octobre et le 17 octobre 1972 naissait le rappeur américain Marshall Bruce Mathers III, alias Eminem. Il a donc 52 ans aujourd'hui. En plus, il vient d'apprendre qu'il allait être grand-père. Ça nous met un coup de vieux à toutes et à tous. Bon anniversaire Eminem, le voici avec Lose Yourself sur RTS Première. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it or just let it slip? Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over. Plow, snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit. He choked, he's so mad, but he won't give up. His whole back to these ropes, it don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke. He's so stacked that he knows when he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't pass. Lose yourself in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity. Taking, make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to post-mortem. It only grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over, these losses all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely roads, God only knows he's grown farther from home, he's no father. He goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, cause here goes the cold water. These losses don't want him no more, he's co-product. They move
trying to feed and water my seed, plus seed is hard, I caught a beach.
Robert Bouvier, nous arrivons à un moment que tout le monde anglophone redoute le plus, le moment que le monde anglophone redoute le plus dans cette émission, c'est celui de la chanson traduite. Aujourd'hui, les décodeurs interprètent un titre de Chuck Berry, Johnny B. Goode, mais en français. Accrochez-vous à vos chaises. Vous devez savoir quel couplet est le bon. Et c'est Olivier Magarotto qui accompagne nos décodeurs.
Un jour désespère aux vieilles ennemies, n'ai-je donc un vécu que pour cette infamie. Voir dans ce plat odieux l'infâme brocoli me retourne le cœur et du coup je vomis. Si vous me demandez à l'instant si ça va, ben je vous répondrai, eh ben non ça va pas.
Va, 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 jaloux, va, 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 jaloux, va.
Puis juste en dessous, une corde de si. Puis la corde de sol qui était moins serrée que celle d'à côté qui est la corde de ré. Par en dessous, la corde qui est accordée en la. Y'a une autre en mi, une octave plus bas.
Va, 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 Jeannot, va, va. Va, Jeannot, va, va. Va, Jeannot, va, va. Va, Jeannot, va, va. Jeannot, s'en va.
Il avait l'habitude de jouer partout. Pendant les repas, mes beaux chiottes, on devenait fous. Il avait toujours sa guitare sous le bras. De chercher du boulot, il n'y pensait même pas. Le père pourtant l'avait bien sermonné, mais son chemin, lui, il l'avait déjà tracé. Oh, va,
va, Jeannot, va, va. Va, Jeannot, va, va. Va, Jeannot, va, va. Va, Jeannot, va, va. Jeannot, sois bon.
Sa mère lui disait, un jour tu seras un homme et tu seras leader d'un groupe légendaire. Beaucoup de gens viendront loin à la ronde pour entendre ta musique au soleil couchant. Peut-être qu'un jour ton nom sera en lumière, qui dira Jeannot joue ce soir.
Va, va, Jeannot, va, va. Va, Jeannot, va, va. Va, Jeannot, va, va. Va, Jeannot, va, va. Jeannot, sois bon.
Jeannot, sois bon, c'est ce que vous avez dit.
Ouais.
C'est
ça. Va, Jeannot, sois bon.
Moi, j'ai dit sans bon, moi, j'ai dit sans bon.
Ah, Jeannot, sans bon, ouais. Ouais. Donc, Johnny B. Goode, repris ici par les décodeurs et notre décodeuse, avec Olivier Magarotto, qui s'est fait pousser une banane dans les cheveux. Mais oui, vous jouez tellement bien le rock'n'roll. Il faut faire ça plus souvent, Olivier Magarotto. Nous avions dans l'ordre les passages chantés par Frédéric Gérard, Daniel Rosis, Thierry Romanon, c'est finalement Sandrine Viglino, qui, d'après vous, chantait le vrai couplet. Robert Bouvier.
J'hésite entre Thierry et Sandrine, je dirais Sandrine.
Oui.
Vous avez vu que c'était des alexandrins quand il chante en alexandrin. C'est dingue ça.
Oui, et Jeannot sans bon qui vous permet de marquer un 16e point. Nous sommes à Neuchâtel. Depuis lundi, nous fêtons le début de la suite de la carrière de Robert Bouvier, qui quitte le poste de directeur du Théâtre du Passage à Neuchâtel, mais ne quitte pas le théâtre pour autant. Avec nous pour en parler et surtout pour jouer, les décodeurs de la semaine, Thierry Romanons, Daniel Rosis, Frédéric Gérard et une décodeuse, Sandrine Viglino, qui tire votre portrait aujourd'hui, Robert Bouvier. Sandrine Viglino, qui est à voir en vrai le 8 novembre prochain au Culturel, avec AILES, de Châtel-Saint-Denis et de 19 novembre au théâtre de Beausobre à Morges. Alors, Robert Bouvier.
Bouvier, directeur du théâtre de passage. Vous n'avez pas été de passage parce que ça fait 24 ans, on l'a dit, que vous êtes là. Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez été victime du syndrome de Stockholm?
C'est joli, peut-être.
Le brouillard, tout ça, vous y êtes fait?
Ah, mais je l'adore. Ouais. Lui, je l'aime.
Il y a un truc, on le dit pas, mais vous faites partie. Vous êtes un des rares directeurs de théâtre à répondre à tous les mails. Ça a dû vous prendre du temps. Est-ce que vous pensez qu'avec ChatGPT, Robert Sando, il va gagner du temps?
Moi, j'ai jamais utilisé ChatGPT.
Ouais. Est-ce que vous avez regretté parfois d'avoir gardé votre baignoire au milieu de votre cuisine et de ne pas l'avoir remplacée par un îlot central? C'est tellement pratique, ça me fascine. Il a une baignoire, c'est juste, hein?
Un jacuzzi.
Un jacuzzi. Oh, c'est encore mieux, donc ça prend encore plus de place.
Non, non, il y a eu de charmantes soirées, notamment après la revue, dans ce fameux jacuzzi.
Qu'est-ce que c'est cette histoire de jacuzzi?
Non, c'était pour les... Non, il n'y avait pas la place.
Merci,
attendez, prenons une minute, je m'excuse, Sandrine Vigneault. Ouais. Qu'est-ce que c'est cette histoire de jacuzzi dans votre cuisine, Robert Bouvier?
Oui, c'est vrai, c'est comme ça, il était là quand je suis arrivé.
Ouais. Ah.
Et ma foi, c'est très agréable.
Voilà, et pourquoi vous parlez de votre...
Ça crée des liens.
Vous parlez de votre jacuzzi, vous vous retournez vers Daniel Rosis.
Non, avec des humoristes.
D'accord, très bien, j'ai eu peur.
Robert, j'ai eu la chance de jouer plusieurs fois dans votre théâtre qui est assez magique, hein, qui nous fait rêver, puis il y a une chanson qui vous correspond bien, c'est Dreamer de Supertramp. Ça m'a fait penser à vous, surtout pour la rime. Donc Robert, vous permettez que je te tutoie dans la chanson?
Volontiers, merci.
Vas-y, Olivier. Robert, t'es vraiment super Robert. Woo! Tu as vraiment une belle et très longue carrière. Robert, t'as eu beaucoup de premières. Aujourd'hui, c'est directeur que j'ai eu, tu le sais pas, mais Cuche Barbeza, c'était ma première revue. Au passage, j'ai fait mes débuts. Robert, tu me fascines, tu sais, Robert. Tous ces rôles que t'as eu, oui, tu sais tout faire. Robert, je t'ai jamais vu vénère. C'est ce que j'aime chez toi, ton côté pépère. Tu vas partir pour de nouvelles aventures. Let's go! Tu vas encore vivre mille vies, c'est ta nature. Vas-y, fonce et gonfle ta voilure. Robert, t'es vraiment super Robert. Aujourd'hui, laisse-toi faire, mon petit Robert. Robert, bienvenue au Decoder.
Robert,
cette semaine avec toi, c'est le bonheur. Robert. Wouh!
Sandrine Vigneault qui reprend du Super Trompe avec l'aide d'Olivier Magarotto, évidemment. Et Robert Bouvier qui fait la bise. Oh, ça vous a plu ce portrait, Robert Bouvier?
Oui, j'aime beaucoup être assimilé à un rêveur.
Un bonus ce jeudi. Je vous rappelle, comme toute la semaine, c'est rare, mais cette semaine, notre invité n'a pas le droit de répondre à mes bonus. C'est vous, dans le public, qui répondez. Et puis, les décodeurs et notre décodeuse pour lui permettre de marquer peut-être un 17e point. Depuis avril 2013, le Théâtre du Passage compte de nouvelles résidentes. De qui je parle?
Des abeilles.
Oui.
Parce qu'on a reçu un pote tout à l'heure, je suis dit sûrement qu'il en a aussi.
Oui, alors oui,
et comme
malheureusement.
On est apiculteurs tous les deux, on a pu comparer nos petits pots.
Oh, c'est vrai que j'ai préparé ces bonus et puis au début de la semaine, Robert Bouvier nous offre des petits miels du passage. Alors effectivement, depuis avril 2013, des abeilles ont été installées sur le toit de la petite salle par monsieur Jean-Claude Meyer, apiculteur chaudefonnier.
Oui.
Le passage entend contribuer ainsi modestement à la sauvegarde des abeilles fragilisées par de nombreux facteurs. Robert Bouvier, c'était en 2013 déjà. Est-ce que les abeilles vont toujours bien?
Oui, elles vont très bien. Elles laissent tranquille les gens du restaurant quand ils mangent en terrasse. Elles vont butiner les fleurs du jardin anglais. Et on est bien content effectivement de les voir. Et puis il y a ces 5 ruches et on pourra les montrer quand on fera la visite des coulisses du théâtre.
Ah, vous allez monter jusque sur le toit pour voir les ruches.
Ouais. Il faut mettre au parfum Robert quand même.
Oui.
Alors, c'est pas évident que les abeilles en ville, ce soit bon pour la biodiversité, parce que comme il y a 10 000 espèces d'abeilles sauvages, si on arrive avec nos abeilles domestiques, on fait disparaître ça. Mais c'est tout un débat, hein. Je veux pas être faire l'antéchrist.
Parce que vous avez aussi des ruches. C'est vrai que maintenant, je vais devoir comparer le rucher du théâtre et donc le miel du théâtre du passage au vôtre, Daniel Rosis.
Sauf que le mien, vous pouvez y aller à la louche parce que j'en fais 50 kilos par ruche. Donc, je vous donne des pots de 12 kilos chacun. Tandis que là, vraiment, il n'y a pas beaucoup de rentabilité.
Mais vous savez que tout ce qui est rare est meilleur.
Je sais.
Alors, sur ce petit pot, je vous lis ce qui est écrit. Miel urbain bio suisse qui a été fait à Neuchâtel, altitude 446 mètres. Disparition de 80% de la masse des invertébrés en 40 ans, est-ce excessif? Voilà, ça
C'est parce qu'on voit des abeilles que les autres disparaissent. Oui. Non, je déconne.
Mais pas du tout, enfin.
Mais ça aussi, non, il y a un vrai débat.
Un petit rappel qu'il faut faire quand même attention à la biodiversité. Et merci pour ce pot de miel et surtout bravo pour ce 17e point grâce au bonus et à Daniel Rosis.
Merci.
Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil, c'est un piège entrouvert, un arbre millénaire, un nœud dans le bois. C'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond, le mystère profond, la promesse de vie, c'est le souffle du vent au sommet des collines, c'est une vieille ruine, le vide et le néant, c'est la pie qui jacasse, c'est l'averse qui verse des torrents d'allégresse, ce sont les eaux de Mars, c'est le pied qui avance, à pas sûr, à pas lent. C'est la main qui se tend, c'est la pierre qu'on lance, c'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui s'oppose, le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire, une écharde, un clou, c'est la fièvre qui monte, c'est un compte à bon compte, c'est un peu rien du tout, un poisson, un geste, c'est comme du vif argent. C'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qui nous reste. C'est du bois, c'est un jour le bout du quai. Un alcool trafiqué, le chemin le plus court. C'est le cri d'un hibou, un corps ensommeillé. La voiture rouillée, c'est la boue. Un pas, un pont, un crapaud qui croasse. C'est un chaland qui passe, c'est un bel horizon. C'est la saison des pluies. C'est la fonte des glaces, ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie. Joseph et c'est Jacques, un serpent qui attaque, une entaille au talon, un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est l'hiver qui s'efface, la fin d'une saison, c'est la neige qui fond, ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie, le mystère profond, ce sont les eaux de Mars, dans ton cœur tout au fond, pas de peine. Et un fin de camin, et un reste de toc, et un poco sozinho. Par une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire. Par une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire. Thank you.
appelle-t-on une messalisante? Robert Bouvier, c'est la question à laquelle répondent tout de suite les décodeurs et notre décodeuse Sandrine Viglino. D'ailleurs, vous vous lancez la première, Sandrine.
Oui, alors il y a une passion que je partage avec Olivier Magarotto, à part le piano et les décodeurs, c'est les messalisantes bien faites. Alors, Olivier et moi avons eu la chance d'accompagner des chanteuses et des chanteurs à travers le monde, et rares sont celles et ceux qui réussissent les messalisantes. Hein. Alors, il y en a beaucoup qui pensent arriver à en faire, hein. T'es d'accord, Olivier? Puis souvent, avec Olivier, on est là, ouais, je chante toujours, c'est pas une messalisante, t'es d'accord?
Ça, c'est sûr, ouais.
Ouais. Mais... non, mais parce que c'est une technique vocale très spécifique.
Ah bah, c'est pas donné à tout le monde.
Voilà, t'es d'accord? On pourrait expliquer que ça se situe entre le mélisme du gospel et les glissandos faits en classique. Mm-hmm. Alors, les spécialistes du messalissante sont notamment Tina Turner, Mahalia Jackson, ou aujourd'hui plus proche de nous, Beyoncé, Lady Gaga, ou encore plus proche de vous, Robert, Frédéric Gérard.
Ouais. Ça m'inquiète.
On va vous faire une démonstration sur la fin de la chanson Proud Mary de Tina Turner, parce que les gens ne le savent pas en Suisse romande, mais Frédéric Gérard est reconnu pour faire les plus belles messalissantes du monde.
J'ai cru que c'était le sosie officiel de Tina Turner, mais qu'on ne savait pas.
Rolling, yeah, rolling,
oh yeah,
rolling on the water. One more time. Rolling,
oh yeah,
rolling,
oh yeah,
rolling on the water.
Merci Sandrine Viglino et Frédéric Tina Gérard pour cette magnifique démonstration. On passe à Thierry Romanens.
Oui, M-E-S, mais, hein, messalissante, ça préfixe, mais c'est un préfixe qui a préfixe. C'est, là, c'est un truc plus compliqué, le préfixe, mais je vous parle du préfixe, qui induit l'insuffisance, une erreur ou quelque chose de négatif. Hein, on a tous quelque chose de négatif, vous voyez ce truc? Négatif, non, il y a mes ententes, mes aventures, mes amours, mes amis, mes emmerdes, voilà, tout ça. On a donc repéré le préfixe improductif, hein, mais improductif parce qu'il fait plus de mots maintenant, c'est fini. Il fait plus de mots, on l'utilise plus. Il est un peu désuet, voilà, mais. Donc, préfixe improductif, c'est dit. C'est les académiciens de l'Académie française là, qui décident de trouver des trucs pareils. Et salissante, alors ça, celui-là, salisante, hein, salisante, qui est relatif au sel minéraux. Plus exactement, mais je sais pas comment faire pour ne pas vous faire sourire. Messalisante, le plus courant, même si visiblement pas tant que ça, puisque personne n'a déjà entendu ce mot, hein, visiblement. Enfin, donc personne ne l'emploie. Hein, ou alors il y en a deux hein, qui habitent le même quartier qui utilisent ce mot. Enfin bon, le plus couramment, messalisante est employé pour l'eau. On parle d'une eau messalisante. C'est-à-dire qu'il ne contient pas assez de sel minéraux et donc qui est moins intéressante comme ressource sanitaire. C'est un terme pas jojo et peu employé, mais qui nous ravit quand même. Et qui nous ravit quand même.
Mais oui.
Ouais, ouais, je suis en train déjà de réfléchir quand est-ce que je vais pouvoir...
vous arrêter.
Ah.
Merci Thierry Romanens.
Je vous en prie.
Daniel Rosis.
Des fois, quand on dit qu'on est catholique, il y a une question, on dit « Est-ce que tu pratiques ?» Non, c'est rigolo parce que la pratique pour la culture catholique, ça veut dire l'observance des prescriptions, notamment en matière de rites. Ouais. Alors face à un catholique qu'on dirait aujourd'hui restitutionniste ou religieux néoclérical, un catholique un peu plus tourné vers l'altruisme que la dévotion lui répond « Moi, je pratique pas tellement, mais je mets en pratique ». Vous voyez la différence.
Oui. Voilà. C'est beau d'ailleurs ça.
Ouais. Dans l'argot des étudiants normaliens, à l'époque, il y avait le mot « tala ». Alors, il y avait des copains, c'était des talas. Les talas, c'est ceux qui vont à la messe. Le machin, c'est un tala. Alors, missalisant ou messalisant, ça, alors ça dépend, parce que j'ai retrouvé en 1973, dans l'encyclopédie de Genève, cette phrase, les missalisants ont fondu des deux tiers. Ça veut dire qu'il y a trois fois moins de gens qui vont à la messe le dimanche.
Messe à l'époque.
Aujourd'hui, pour dire la messe, on dit messalisant. C'est un terme de sociologie pour dire ceux qui vont chaque dimanche à la messe. Mmh. Puis ceux qui vont qu'à Noël, on dit les noëlisants. Ou ceux qui vont qu'à Pâques, on dit les pascalisants. J'ai vu l'autre jour au fond de l'église une belle affiche. On voit un cercueil avec des types qui portent, puis au-dessous, c'était écrit « Venez à l'église avant que d'autres vous y amènent. » Je trouvais que il y a des curés qui ont... Voilà, je trouvais ça assez sympa. Parce que les gens, ils vont... En fait, la dernière fois que j'étais à la messe, c'est à mon propre enterrement, tu vois comment. Voilà, alors pour ceux qui veulent pratiquer, je vous donne les prochains rendez-vous. Il y aura le biscôme de la Saint-Nicolas, les bûches de Noël, les couronnes des rois, les crêpes de la Chandeleur, les merveilles de carnaval et les nichons de Sainte-Agathe. Les nichons de Sainte-Agathe, pour la Sainte-Agathe. Vous connaissez pas les nichons de Sainte-Agathe? C'est des pâtisseries siciliennes de Catane qui sont comme des puddings blancs, comme ça, avec une petite cerise posée dessus. Ça fait un peu penser au carac rose qu'on vend pour sensibiliser au cancer du sein, voyez.
Et dans Mozart, il n'y a pas, à un moment donné, il n'en mange pas.
Mais on mange les têtes de Sainte-Agathe. Et ça, c'est superbe. Ça, tous les Siciliens connaissent. On vous a jamais dit, vous appelez Agathe?
Non.
D'accord. Ce serait la cerise sur le gâteau, alors ça, je peux vous dire, dans une carrière comme la vôtre.
Je vous laisse aller, vous me dites quand c'est bon.
Ah, mais c'est toujours bon, mais moi, j'en mange peu parce que je suis diabétique.
Merci, Daniel Rosis. Et finalement, Frédéric Gérard.
Mais oui, finalement. Les messalisantes et les messalisants sont des gradés de l'armée française qui éprouvent énormément de plaisir à prendre leur repas aux messes. Le mess étant précisément l'endroit où se retrouvent les gradés pour manger. Prenant beaucoup de plaisir à déguster une cuisine bien meilleure que l'ordinaire assez dégoûtant du soldat de base, le messalisant et la messalisante ont la fâcheuse tendance à prolonger le plaisir en reprenant plusieurs fois du gratin dauphinois avec une tranche de rôti de plus, s'il vous plaît, en s'éternisant au fromage. Ce roquefort. Passez-moi une tranche de pain, lieutenant Romanence. Sans parler du dessert et du café indispensable et bien sûr du pousse-café qui ne l'est pas moins. Après ça, une bonne sieste et au lit. Il va sans dire que ces profiteurs du profiterol sont très mal vus par le reste du régiment et car leurs propos ne parlent pas de grade, mais de grade double. Voilà. En ce qui me concerne, j'ai fait mon service militaire au 505e, régiment du train à Vienne. Oui, enfin, je ne l'ai pas fait très longtemps, mais suffisamment pour avoir affaire au perfil lieutenant Astruc et au redoutable lieutenant-colonel Jamais. Ce qui m'a fait dire au médecin de l'infirmerie où on m'avait transporté, avec le sens de l'humour qui m'est propre, je me ferai jamais à ce truc. C'est véridique, hein. C'est la vraie histoire de ma vie. Non, je le précise parce que vous dites toujours que je dis quelque chose en plus qu'il faut pas.
Mais non. Voyez, là, par exemple, vous arrêtez.
Mais j'ai envie de continuer.
Oui, je sais que ça vous démange. Alors, qu'est-ce qu'une messalisante, Robert Bouvier? Pour Sandrine Viglino, il s'agirait d'une technique vocale. Pour Thierry Romanence, ça a à voir avec l'eau, une eau qui ne contient pas assez de sels minéraux. Daniel Rosis, pour vous, ce sont toutes les personnes qui vont à la messe chaque dimanche. Et pour Frédéric Gérard, il s'agit des gradés de l'armée française qui adorent aller manger aux messes. Robert Bouvier, pour un 18e point, qu'est-ce qu'une messalisante?
J'essaye l'histoire du sel, la deuxième.
Je vous rappelle que vous avez cette semaine encore un joker disponible.
Alors je demande au public.
Je ne veux pas vous influencer.
Non, merci Marie.
Alors le public a voté pour Daniel. Non, est-ce que vraiment il faut utiliser ce public finalement ou pas? Alors je vais vous dire ce qu'a voté le public finalement. Certains ont voté pour Thierry Romanence, un peu moins ont voté pour Daniel Rosis. Est-ce qu'ils ont tort? Ça je ne sais pas.
Mais c'est-à-dire qu'ils ont peut-être tort.
Vous dites vous ne savez pas et vous mentez.
Alors Daniel.
Daniel Rosis. Merci. Il faut vraiment que j'arrête de vous dire d'utiliser le public. Le public est nul toute cette semaine, enfin. Qu'est-ce qui vous arrive? vous avez voté en grande majorité pas pour la bonne réponse. Heureusement, notre invité Robert Bouvier a vu juste. Il marque son 18e point puisqu'une messalisante est une personne qui assiste ou participe assidûment à la messe dominicale. Un messalisant, une messalisante. Est-ce qu'il y en a beaucoup par ici ? Ça ne nous regarde pas. 18e point pour notre invité. Bravo Robert Bouvier. On pourrait d'ailleurs trouver un nom pour toutes celles et ceux qui vont toutes les semaines au théâtre. Comment on les appellerait ? Vous avez des réguliers comme ça ?
Des amours.
C'est vrai ?
Non, comment on pourrait les appeler ? Oui, je me souviens aussi d'une dame âgée qui avait pris, qui avait renoncé à la redevance, pardon, et elle avait préféré prendre les 45 spectacles en disant au moins là je rencontre des gens. Vous parliez de Benabar, elle était venue voir Benabar, elle était toujours au premier rang, c'était assez rigolo. Et puis c'était une façon de garder le contact effectivement avec la société.
Oui.
Je tiens à signaler aux auditeurs et au public qu'on peut aller tous les jours au théâtre et payer la redevance.
Absolument.
Et vous pouvez rencontrer du monde grâce aux émissions de la redevance, par exemple, si vous vous inscrivez pour assister à l'une de nos émissions sur avecvous.rts.ch. Venez rencontrer notre public. Mais c'est vrai qu'il y a des fidèles, des gens qui ne peuvent pas se passer de théâtre. Je pense que vous avez comme ça des visages que vous aurez croisés durant peut-être 24 ans. Est-ce qu'ils vont vous manquer, ces gens-là ? Vous allez quand même les revoir.
Oui, j'espère les revoir ailleurs. Et puis, chaque personne, pour moi, j'ai vraiment rien. Non, j'ai envie, j'ai envie de les revoir. Mais les prochains projets, en fait, il faut quand même que je le dise, c'est plutôt, il y a un spectacle que je pourrais faire en automne à Londres, en anglais. Et un autre, ça serait de faire Francesco d'Assisi en italien à San Sepolcro. Donc c'est assez loin de Neuchâtel, mais
ça vous va bien aussi.
Oui. C'est bien d'aller à la découverte et justement de faire une vraie.
Mais en anglais, Neuchâtel, c'est vrai
virage.
Newcastle.
Bonne équipe de foot. Là.
Oui, ça va. Ouais.
Et puis Châtel-Saint-Denis, c'est Sydney.
Voilà, merci, Daniel Rosis. On poursuit avec le dernier jeu du jour. Et le dernier jeu du jour, c'est le vôtre, Robert Bouvier, votre défi du jeudi. Vous posez une question à nos décodeurs, notre décodeuse, qui ont une minute pour répondre.
Alors, ils sont si bons que j'ai peur que la réponse fuse. Je me retourne notamment vers Daniel. J'ai eu quelques questions faciles, peut-être celle-ci est facile. Que signifie le mot coxigrue ?
Ah oui, on sait ça.
Oui.
On a su.
En tout cas, c'est pas le truc que si on la broie, on obtient la couleur rouge. C'est pas ça du tout là.
C'est possible.
Ouh, la minute est allée vite. Non mais le temps file, hein, pendant les
décors. C'est la
C'est trop tard, non, parce que j'ai vu que vous alliez vous lancer, Daniel Rosis. J'ai pris un peu d'avance.
Ça accélère le temps.
Non, vous l'avez pas eu.
T'as confondu avec la coche.
Oui, j'ai confondu avec la coche.
Ah mince, en plus j'ai sonné le gong.
Non, il a cru.
Dites-nous tout, Robert.
Frédéric avait prononcé ce joli mot avant de baliverne.
Oui.
Absurdité. La coxigrue serait née de l'union d'un coq, d'une grue et de la ciguë, dont elle est d'ailleurs très friande. C'est une créature imaginaire, considérée comme l'incarnation de l'absurdité absolue. Et elle est mentionnée pour la première fois par Rabelais.
Ben oui.
Bravo. Gargantua.
Ah oui. Ah, ouais. Quel chapitre? Non.
À la 8e page.
Eh bien, vous marquez ce 19e point grâce à votre défi. Vous n'avez pas réussi à répondre, Lady Coder.
Non,
enfin, qu'est-ce qui vous prend ?
Parce qu'on avait la plus petite horloge du monde.
Oui, c'est vrai.
C'est ça.
Ah, mais ça va vite et le temps file. Il va tellement vite que nous sommes arrivés à la fin de cette émission pour aujourd'hui. C'est ici qu'on s'arrête. Il nous reste encore une journée pour parler des 24 ans que Robert Bouvier a passé à la tête du Théâtre du Passage à Neuchâtel. Théâtre qu'il quittera en janvier, mais surtout, il nous reste une journée pour parler de la suite de sa carrière. Avec les décodeurs et la décodeuse de la semaine, Sandrine Viglino, Thierry Romanence, Daniel Rosis et Frédéric Gérard, je vous retrouve demain, Robert Bouvier.
Avec plaisir.
Tant mieux. Thank you.
La première vous offre l'heure.
Avec plaisir. Il est 6h sur la première. Bon réveil. Bonjour et soyez les bienvenus dans la matinale de ce jeudi 17 octobre.